Table ovale sans ellipse, comme d'habitude, comme chaque mois, présenté par Claude Devezin, mais un table ovale sans ellipse spécial, puisque nous invitons habituellement les représentants locaux des partis politiques nationaux possédant des parlementaires, et cette fois, nous y avons ajouté les formations qu'on voit apparaître lorsqu'un scrutin proportionnel est proposé. Il y a dans le Sud-Ouest 25 listes, 13 seulement ont fourni des documents de campagne par courrier, nous en avons invité 11, et 8 sont présents, n'ont pas répondu à notre invitation, le nouveau parti anticapitaliste et les listes Force Vie. Le Front de Gauche s'est excusé, il n'avait pas trouvé de représentant pour venir à cette heure et aujourd'hui. Sont donc présents autour de la table ovale Arnaud Roche pour la liste Debout la France, Aurélien Pradier pour la liste Pour la France, c'est-à-dire celle de l'UMP, Bruno Leleu pour la liste Bleu Marine, c'est-à-dire celle du Front National, Christian-Emmanuel Gros pour la liste UDI, Modem, les Européens, Dominique Setta pour la liste Nouvelle Donne, Fabrice Weisser pour la liste Notre Europe, c'est-à-dire la liste PS-PRG, Gérard Onesta qui est candidat, j'ai oublié de préciser qu'Aurélien Pradier et Arnaud Roche sont candidats, Gérard Onesta qui est candidat et qui a été vice-président du Parlement européen pour la liste Europe Écologie, et Sandra Torremocha qui est candidate tête de liste de la liste Lutte Ouvrière. Et
Donc, Dominique Saïta, je suis candidat sur la liste Nouvelle Donne en troisième position.
Voilà. Bon, donc, j'avais oublié un candidat qui est présent. Nous devrions commencer, je commence là, par une question, qu'avez-vous fait? Je dois dire que je mets un point d'interrogation et j'aurais presque envie de mettre un point d'exclamation. Et j'ai divisé cette question en quatre parties. La première étant, qu'avez-vous fait pour diminuer, répartir les disparités sociales et fiscales en Europe? Et évidemment, je donne la parole à l'ancien vice-président du Parlement européen, c'est-à-dire Gérard Onesta, qui est candidat pour les Verts. Qu'avez-vous fait?
Alors, on s'est heurté à un mur, parce que ce qu'il faut bien connaître en Europe, c'est la règle absolument perverse des traités actuels. Parler de fiscalité, la fiscalité se traite à l'unanimité. À l'unanimité dans le huis clos du Conseil. C'est-à-dire que ce ne sont pas des représentants élus, mais des ministres, ou plutôt leurs représentants, c'est-à-dire d'honorables fonctionnaires qui n'auront jamais de compte à rendre à personne directement aux citoyens, qui décident à huis clos pour la fiscalité de ne quasiment jamais rien changer. Ce qui nous amène à des situations absolument invraisemblables, même quand le Parlement vote, même s'il a mis longtemps pour le voter, par exemple une taxe de type Tobin, c'est-à-dire sur la spéculation, eh bien ça fait tellement d'argent qui pourrait rentrer du jour au lendemain en taxant la cupidité mondiale dans les caisses européennes, qu'on dépasse les plafonds fixés au niveau du Conseil, 1,24% du PNB continental, montant qu'on n'a jamais atteint, puisqu'on a même décidé de passer sous la barre des 1%, ce qui veut dire que l'Union européenne fait la manche dans la rue parce qu'elle n'a absolument pas les moyens de mener ses politiques. On ne peut pas atteindre ces plafonds-là parce qu'effectivement, il faut l'unanimité pour lever ce genre de taxes, et par exemple la City de Londres le refuse. Donc pour vraiment agir, il faut changer l'Europe, notamment le traité.
Cependant, il y avait une majorité d'États qui était favorable.
Eh oui, mais malheureusement, c'est la règle de l'unanimité. C'est le moins-disant, c'est le cancre de la classe, quel que soit le sujet, qui fixe le tempo à laquelle avance toute la classe. Vous voyez à quel niveau, parfois, d'indigence intellectuelle et d'indigence politique est rendue l'Europe. Non pas qu'il n'y a pas de volonté politique pour se faire, mais quand la règle du jeu est à ce point perverse, elle bloque tout le jeu.
Monsieur Gros, pour les centristes, qu'avez-vous fait?
Est-ce qu'on pourrait réagir
à propos, vous pouvez réagir. En même temps, je souhaite que, puisque c'est qu'avez-vous fait, on va déjà voir ceux qui y ont été.
Là, il n'y a rien à faire. Gérard Onesta vient de dire exactement ce qui se passe. C'est qu'on nous fait croire que l'Europe agit alors que les gouvernements tiennent tout en main. La règle de l'unanimité bloque tout. C'est pas l'Europe qu'il faut accuser. Ce sont les partenaires gouvernementaux de l'Europe qui ont perdu un peu de pouvoir par rapport au Parlement, à la précédente mandature, celle qui s'achève, qui vont en perdre un peu plus également parce que le Parlement va pouvoir avoir son mot à dire sur le président de la Commission. Mais pour le reste, on ne peut rien y faire. Ce sont nos gouvernements qui décident encore. On fait porter le chapeau à Bruxelles, mais je pense que Gérard Onesta va être d'accord avec moi. Ce n'est pas Bruxelles qui est coupable de cette règle de l'unanimité. Ce n'est pas Bruxelles qui est coupable de du non-avancement de certains projets. Ce sont les gouvernements qui s'y opposent. Je signale une chose, par exemple, c'est que le président sortant de la Commission s'appelle José Manuel Barroso. Il a été choisi par les gouvernements. Normalement, ça aurait dû être Guy Verhofstadt, notre candidat, qui aurait dû être élu. Il avait été choisi. Et Monsieur Blair, à l'époque, s'y est opposé, tout simplement parce qu'il a mis un veto, tout simplement parce que Guy Verhofstadt s'était montré opposé à la guerre d'Irak. Et vous ne pouvez rien faire dans des conditions comme ça. Alors, c'est vrai que c'est mauvais, mais le fonctionnement ne revient qu'à nos gouvernements.
Monsieur Pradier pour l'UMP.
Écoutez, en posant même votre question de savoir ce qu'a fait l'Europe, vous apportez déjà un premier élément.
Qu'avez-vous fait, vous, qui aviez des représentants au Parlement européen ?
Qu'avons-nous fait collectivement pour l'Europe ? Vous apportez une partie de réponse. Si on se pose si manifestement la question, c'est que, clairement, nos concitoyens ne voient pas vraiment, et nous-mêmes peut-être d'ailleurs, tout ce qu'aurait pu apporter ou tout ce qu'aurait dû apporter l'Europe. Bon, je crois que sur ce point, nous serons probablement autour de la table assez nombreux à nous retrouver sur le fait que aujourd'hui, au stade où est rendue l'Europe, il manque beaucoup, beaucoup encore de choses à faire. À part peut-être quelques parties autour de la table qui considéreront qu'il n'y a rien à faire parce qu'il faut faire exploser la machine, tout le monde considérera que le problème existe au sein du fonctionnement de la machinerie. Sur l'unanimité, j'ai la même position. Cette idée d'unanimité est absurde. Elle était, je pense, tout à fait nécessaire à la création de l'Europe, parce que c'était un pas énorme que les gouvernements devaient faire pour laisser un peu de leur pouvoir à un échelon plus européen. Mais aujourd'hui que nous sommes si intégrés dans la démarche européenne, il faut probablement pouvoir en venir à une démocratie plus raisonnable, et cette démocratie plus raisonnable, c'est à l'évidence la majorité. Donc en disant cela, je dis que qu'avons-nous fait pour l'Europe ? Probablement pas assez, et d'ailleurs si tout ce débat aujourd'hui existe, si toute cette inquiétude autour de l'abstention demeure, c'est parce que l'Europe n'a pas fait suffisamment et qu'elle a encore beaucoup à faire.
Monsieur Leleu, vous aussi vous avez des représentants. Bien, le Front National.
Bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement regardé aujourd'hui ces partis. Aujourd'hui, ils vont faire semblant de s'affronter, démanteler la France et perdre notre souveraineté. Et laisser...
La question, c'était sur les disparités sociales et fiscales. Qu'est-ce qui a été fait au Parlement européen, notamment par vos représentants ?
Nos représentants, il y avait trois, nos représentants Front National. On l'a simplement observé, c'est-à-dire qu'on était dans aucune commission, on les a simplement observés, démanteler aujourd'hui la France, bout par bout, laisser échapper la souveraineté. Donc aujourd'hui, on n'a pas eu assez de représentants pour siéger sur toutes les commissions. Avec trois, c'était pas très évident. On va commencer par là. C'est le seul os à ronger aujourd'hui par rapport aux arguments que vous avez à donner, je vais vous dire. Ça sert à rien.
Bon. Sur les disparités fiscales et sociales. Donc, les autres se sont exprimés. Donc
mais disparités aujourd'hui sociales et fiscales. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Vous savez qu'on est eurosceptique. On n'a pas eu le pouvoir pour faire bouger les choses. Donc on n'a rien pu faire. On a simplement observé au niveau du Front National.
Alors on a ceux qui n'y étaient pas, qui seront peut-être, mais qui n'y étaient pas. Parmi lesquels une tête de liste, Sandra Torremocha, pour Lutte ouvrière. Donc vous, je ne peux pas vous dire...
Yet est ma collègue.
C'est ce que j'allais rappeler, bien sûr.
Merci, monsieur.
Et qui n'a pas voté la taxe Tobin, car on n'amende pas le système, on doit le détruire. Mais...
Alors, je vous remercie de me laisser parler en nom de ma camarade Arlette Laguiller. Donc, effectivement, elle était accompagnée de deux autres camarades au Parlement européen pendant une mandature. Et donc, bien sûr, elle a fait entendre la voix des travailleurs dans cette enceinte où on l'entend pas beaucoup. Et effectivement, le pouvoir du Parlement européen est, on peut dire, quasi nul. De toute façon, aujourd'hui, la construction européenne, elle a été faite pour et par les groupes capitalistes. C'est ce qu'on constate aujourd'hui avec les politiques d'austérité qui sont menées partout dans tous les pays européens avec... les armes de combat que constituent certaines institutions, notamment financières, européennes, contre les populations. Et il faut bien sûr, quand on est travailleur, qu'on subit la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement en France comme ailleurs, eh bien, faire entendre sa colère à l'occasion de ces élections et dire que c'est pas vrai que c'est pas un problème de volonté politique. Bien sûr que c'est un problème de volonté politique. Aujourd'hui, la société entière, elle est dominée par les puissances de l'argent, par les groupes capitalistes. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Au niveau européen, c'est carrément institutionnalisé avec les lobbying. Bon, eh bien justement, tout ce fonctionnement aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, c'est des grands groupes qui décident. C'est Total, c'est Bouygues, c'est la famille Peugeot, c'est des grands groupes qui aujourd'hui décident de licencier. Comme on claque la porte de sa voiture, eh bien ça, il faut l'interdire. Aujourd'hui, en Europe, ce qu'il faut, c'est l'interdiction des licenciements. Et ça ne se fera pas par le Parlement européen, parce que le système électoral est fait de telle sorte que, de toute façon, c'est les travailleurs qui devront l'imposer par le bas, comme tous les droits sociaux. Donc les disparités fiscales ou sociales dont vous parlez, eh bien je crois qu'elles sont... volontaires, elles sont mises pour diviser les peuples au sein de l'Europe, elles sont faites pour mettre en concurrence les travailleurs espagnols et les travailleurs français, les travailleurs grecs et les travailleurs allemands, et c'est assez nauséabond parce que je pense qu'au XXIe siècle on devrait justement avancer vers une Europe sans frontières, une Europe qui permette de vivre dans une société qui serait digne d'un monde un peu plus développé que ce qu'il n'est. Mais par contre là, dans le cadre de ces élections, on ne pourra pas changer grand-chose, mais on peut au moins exprimer le désaveu par rapport à toutes ces politiques d'austérité, à commencer par celle qui est menée par un gouvernement soi-disant socialiste et qui est au service des plus riches.
Monsieur Vessière, je réalise que... Je vous ai demandé, bien sûr, qu'avez-vous fait, qu'ont fait vos représentants.
Alors, qu'ont fait nos représentants du Parti Socialiste...
À propos des disparités sociales et fiscales.
Et du PRG, donc, au Parlement européen, sur ces points. La première des choses, quand même, que j'entends souligner, c'est qu'ils ont agi dans le cadre de la sphère de compétence qui est la leur. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un Conseil de l'Europe qui est majoritairement composé par des conservateurs et des libéraux. Un président de la Commission qui n'est pas un socialiste.
Qui a été élu par le groupe socialiste.
Mais qui ne l'est pas. Et nous n'avons pas, bien évidemment, la majorité au Parlement européen. Donc, je dirais que dans la sphère de compétences que nous avons, dans la sphère d'action que nous pouvons avoir, eh bien, mes camarades parlementaires européens ont au mieux essayé d'orienter les décisions qui pouvaient être prises au Parlement européen, étant précisé, je le rappelle pour vos auditeurs, que le parlementaire européen n'a pas la possibilité, à la différence du parlementaire national, et là je parle sous votre contrôle, n'a pas la possibilité de faire de propositions de texte.
Hein. Il peut inviter la Commission à légiférer.
Il peut inviter la Commission à légiférer, effectivement, mais pour autant, il ne dispose pas du pouvoir d'initiative. Donc, il y a une capacité d'action qui est à ce jour extrêmement, extrêmement limitée. Alors, il y a eu du travail dans l'hémicycle, il y a eu du travail en commission, mais bien évidemment, celui-ci n'a pas permis de réorienter la politique européenne en cette matière comme nous l'aurions souhaité.
Toujours sur cette disparité sociale et fiscale, là cette fois je crois ne pas me tromper en affirmant que vous n'aviez pas de représentant jusque-là, monsieur Setta, pour Nouvelle-Donne.
Voilà. Alors moi je suis heureux de constater que tout le monde est d'accord pour dire que le Parlement n'a pas assez de pouvoir, que la démocratie n'est pas là au sein de l'Union européenne. Malheureusement, il y a ici autour des représentants qui sont là, qui ont été dans le Parlement pendant des années, et apparemment il n'y a pas eu, vous semblez tous d'accord, et il n'y a pas eu d'accord pour dire on arrête ça. La proposition de Nouvelle Donne autour de ce sujet d'harmonisation sociale et fiscale, c'est de dire il faut on va proposer de créer une zone d'action réduite à un certain nombre de pays qui sont prêts à jouer le jeu de l'harmonisation sociale et fiscale, en excluant tous les pays qui sont pas dans l'euro, les pays qui n'ont pas pris l'accord sur la taxation des transactions financières, les pays qui sont des paradis fiscaux, puisqu'il y en a quand même quelques-uns dans l'Europe, et de travailler avec eux sur un projet de traité social et fiscal qui serait une façon de tirer l'Europe en avant vers plus d'intégration, d'arriver peut-être un peu plus près de la concurrence libre et non faussée, parce qu'actuellement elle est totalement faussée. Et ce traité serait voté en un seul jour sur l'ensemble des pays concernés par les citoyens. Les traités qui sont négociés en, je veux dire, d'ailleurs sans les parlementaires pour certains d'entre eux, mais avec les grands groupes, sont certainement pas ceux qui répondent à la démocratie.
C'est le vœu de nouvelle donne. Mais est-ce que le Parlement a la possibilité de proposer un traité aux citoyens de l'Europe?
Alors le Parlement peut proposer modification du traité, mais il ne peut pas le proposer pour un certain nombre de pays, sinon ça s'appelle une coopération renforcée, et là, pas de chance, le traité actuel dit que dans ce cas-là, le Parlement n'a plus rien à dire. Donc j'entends la proposition très sympathique, mais pour ça, il faut faire une vraie révolution. Nous sommes prêts, nous les écologistes. Il faut vraiment changer le traité de fond en comble et ne pas croire que c'est sur la base du traité actuel qu'on peut permettre cette généreuse initiative.
Alors, accompagner d'autres organisations dans ce domaine. Pardon.
Toujours dans la question qu'avez-vous fait, je m'intéresse à la Banque centrale que j'ai intitulée timide. Et cependant, il y a eu recours à cette Banque centrale à une époque. Monsieur Pradier, pour l'UMP. Est-ce que cette Banque centrale, est-ce qu'elle peut faire mieux? Est-ce qu'elle existe vraiment?
Oui, probablement. Enfin, la Banque centrale est un outil parmi d'autres, pardon de vous lire. Alors, est-ce qu'elle existe? Oui, compte tenu du capital qu'elle a aujourd'hui en gestion, elle fait plus qu'exister. Elle pèse lourdement, financièrement au moins. La Banque centrale est un outil. Et je le dis parce que je pense que sur l'aspect financier, finalement, c'est votre question. Qu'est-ce que l'Europe peut faire lorsqu'il s'agit de gérer des crises financières importantes, majeures, comme celle que nous avons eue il y a quelque temps? Ce n'est pas la Banque centrale, à mon sens, de prendre la décision directement. C'est le représentant politique, le représentant des États et le Parlement de pouvoir en décider. Mais l'Europe n'existe, n'est efficace que si elle a au moins un moteur. Et je crois que c'est une discussion que nous pouvons avoir, qui pour moi est essentielle. L'Europe n'avance que si elle a un moteur politique, au moins dans un des grands pays fondateurs. Et force est de constater, que nous voyons, quelles que soient les convictions que les uns et les autres peuvent avoir, on sort d'une période d'un hyper-président Sarkozy dénoncé à tort et à travers, mais qui, au sein de l'Union européenne, avait au moins un rôle moteur sur un certain nombre de sujets, et notamment sur la gestion de la crise de l'euro. Personne ne peut lui contester l'initiative. On permettrait de dire que le moteur aujourd'hui de François Hollande est pour le moins faible, pour ne pas dire même inexistant. Donc l'Europe n'existe que si elle a un moteur, et la Banque centrale, pardon de vous le dire, mais c'est un politique qui le dit, un élu local, elle n'a de raison d'exister et de prendre d'initiative que si le politique le lui commande. Et je pense que le politique pourrait et aurait dû le lui commander plus fortement à d'autres instants.
Monsieur Gros,
le politique commande totalement à la Banque Centrale Européenne. C'est Angela Merkel, c'est tout. Il y a quelqu'un qui a des droits de parler parce qu'elle est seule à avoir de l'argent. Nous sommes tous dans des conditions financières qui sont telles qu'on ne peut que se taire. Quant à la Banque Centrale, elle n'est pas liée au Parlement. Elle a un président de la Banque Centrale qui est Mario Draghi, qui agit suivant les normes qu'on lui a données et que lui impose Merkel essentiellement. Mais le Parlement, effectivement, ne peut rien faire. De toute façon, les gouvernements ne peuvent non plus rien faire à part le gouvernement allemand. Donc on ne peut pas dire que ça soit un problème du Parlement. Là. Ça n'a rien à voir avec nos élections. Et quand tu as parlé du moteur Sarkozy, j'ose pas rire parce que c'est pas...
Il n'est pas candidat au Parlement européen.
Non, mais c'est pas une émission drôle. Bon, il l'a été.
C'était mon collègue pendant 10 jours. Voilà. Il avait promis de rester, il a tenu sa promesse pendant 10 jours. Comme c'est du Sarkozy dans le texte.
Bon, vous avez retrouvé le punching ball Sarkozy, donc faites-vous plaisir pendant quelques instants, ça nous évite de parler de l'Europe.
Hollande avait tenu 21 jours. Qui est beaucoup, quand même beaucoup plus.
Qui pour lui est beaucoup, oui.
C'est le double.
Alors moi je voulais intervenir
sur la Banque centrale. Alors.
Sur la Banque centrale et sur ce qui vient d'être dit, je passerai sur Sarkozy, mais sur Merkel, parce que c'est quand même souvent un argument utilisé pour dire « Ah oui, s'il y a des problèmes, c'est la faute à l'Europe, et derrière, c'est la faute à qui ? Aux Allemands et à Merkel. » Eh bien ça, c'est dédouaner la responsabilité du gouvernement français. Parce que la France... Et le gouvernement français et ses représentants politiques pèsent aussi dans l'Europe. Donc c'est vraiment une façon de... Hein, le problème, non, on peut rien faire, l'Europe, non, on ne peut que se taire. C'est pas vrai. Ça, c'est, moi, ça me révolte de voir que des gens qui se prétendent faire de la politique baissent les bras comme ça. Quand on fait de la politique, on défend des idées. Les idées, il faut les défendre en choisissant un camp. Et aujourd'hui, au Parlement européen, personne n'a choisi le camp des travailleurs. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la crise, on l'a fait payer aux travailleurs. Et la Banque centrale, elle sert à quoi? Elle sert à aider les banques nationales. Et les banques nationales, elles font quoi? Elles récupèrent des milliards de subventions de l'État. Qui sont pris où? Qui sont pris dans nos poches. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les électeurs et les travailleurs, ils veulent dénoncer. Parce qu'il y en a ras-le-bol que cette dette qui n'a été faite que pour les banquiers, on la fasse payer à la population. Et là-dedans, la Banque Centrale Européenne, elle joue le rôle au niveau européen que jouent les autres banques. Donc moi, je pense qu'il faut exproprier toutes les banques et les mettre sous le contrôle de la population pour que l'argent il puisse servir réellement à créer de l'emploi, à payer des salaires et à faire en sorte que les travailleurs puissent retrouver ou trouver, parce que je ne sais pas si un jour ils l'ont eu, un niveau de vie correct, y compris en Europe, c'est-à-dire dans la partie du monde qui est une des plus riches.
Monsieur Onesta.
Derrière la Banque centrale, il y a l'euro. L'euro est une brillante idée, mais encore moins totalement inaboutie. Je pense que l'euro est une bonne chose, en ce sens que, pour ceux qui se rappellent comment c'était avant l'euro, en une seule nuit, on pouvait se retrouver ruiné parce que la peseta avait dévalué de 20% ou la lire de 30%, automate était invendable. Donc du jour au lendemain, on a considéré qu'il fallait jouer avec la même règle du jeu, la même monnaie. En plus, quand on se baladait en Europe, simplement de changer la monnaie, c'était l'Europe, j'ai connu l'Europe des 12, j'étais le Benjamin du Parlement européen à l'époque, on prenait 100 francs, c'était des francs, on faisait le tour d'Europe sans rien acheter, simplement on changeait la monnaie à toutes les frontières, on revenait en France, il restait que 50 francs. On avait déjà perdu la moitié, simplement en frais de change. Donc au moins, l'euro a été une bonne chose pour ça. Le problème, c'est qu'il a été adossé à une banque centrale dont les statuts sont débiles. Où on est là uniquement pour se battre contre l'inflation. Vieux fantasme allemand qui date de l'entre-deux-guerres. Mais le problème, c'est qu'une vraie politique monétaire ne s'appuie pas uniquement sur ce seul critère. Elle doit également défendre l'emploi. Pour l'instant, la Banque centrale...
Si je ne me trompe pas, elle prête quand même de l'argent à des taux extrêmement bas.
Attention, justement, on va y venir. La Banque centrale, pour l'instant, si pour maintenir l'inflation basse, il faut sacrifier des millions d'emplois, elle le fait de manière froide parce qu'elle applique ses statuts. En plus, sans avoir de compte à rendre à personne. Une fois que vous êtes nommé dans le directoire de la Banque centrale européenne, vous n'avez de compte à rendre à personne. Moi, j'ai vu, c'était M. Duesenberg ou M. Trichet qui venait faire le discours du trône. C'est comme la reine d'Angleterre, sans le chapeau, devant le Parlement européen. On pouvait lui dire ce qu'on voulait. Il n'avait rien à foutre de ce qu'on pouvait lui raconter. Donc la Banque centrale doit avoir ses statuts profondément remaniés, notamment pour avoir le droit de prêter directement aux États, à 1%, ce qui permettrait au passage de pas voir le système bancaire faire du fric sur la puissance publique. Et la puissance publique, c'est votre argent, c'est notre argent, c'est ce qui manque dans l'économie réelle, justement pour créer des emplois, protéger l'environnement et faire du social. Donc on voit bien qu'une fois de plus, on en revient au même problème. Il faut changer la règle du jeu. Une politique monétaire, c'est pas simplement se battre contre l'inflation, c'est également avoir un budget commun et conséquent, avoir une fiscalité commune et régulé, c'est avoir une politique également sociale et qui soit digne de ce nom, on en est loin. Donc c'est pas l'euro qui est en cause, c'est tout le mécanisme qui le gère qu'il faut complètement revoir.
Monsieur Vessière, pour le Parti Socialiste.
Oui, alors, pour ce qui est de la BCE, je rejoins mon collègue, si vous permettez.
Il n'y a pas de problème.
qui prenait la parole juste avant moi. Effectivement, ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que, l'évidence...
C'est ça pour les Verts.
Ce qui aujourd'hui est devenu totalement inacceptable pour un grand nombre de nos concitoyens et tous ceux qui s'intéressent à la chose publique, c'est que nous avons une Banque Centrale Européenne qui n'a effectivement qu'une seule obsession et qu'une seule mission, c'est celle qui consiste à lutter contre l'inflation. Pas simplement parce que c'est le fantasme allemand. Il est vrai qu'une économie qui est atteinte par l'inflation est une économie malade. Donc c'est une nécessité que de lutter contre ce fléau. Pour autant, on ne peut pas limiter le rôle de la Banque Centrale Européenne à cette simple mission. Il faut impérativement qu'à l'avenir, nous puissions avoir une politique européenne qui s'appuie sur cette Banque Centrale Européenne avec une volonté de pouvoir mener une politique en faveur de la croissance et de l'emploi. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et ça ne peut pas continuer.
Monsieur Leleu, sur la Banque Centrale, étant entendu que les propos que je viens d'entendre, c'était ma question. J'insinuais qu'elle était timide. Mais en même temps, on a l'impression qu'on attend qu'elle appuie sur le bouton du photocopieur et on risque d'être payé en mode singe quand même.
Ce que j'entends là, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que l'euro aujourd'hui, il y a un problème avec l'euro. Le Front National, passons, est contre l'euro. Nous sommes pour une monnaie nationale. Si on revient un peu en arrière, en 1973, on a interdit à l'Angleterre d'emprunter la Banque de France. Donc aujourd'hui, on passe par la Banque Centrale Européenne, qui prête de l'argent au niveau des banques privées, qui prête de l'argent à l'État, ce qui représente aujourd'hui en termes d'intérêt la deuxième partie budgétaire de la France. De la France. Aujourd'hui, l'euro, c'est... Pardon ?
Personne n'a compris.
Personne n'a compris.
Non, mais il faudrait l'expliciter parce que là, ça devient difficile à comprendre.
Ça n'a pas vocation à être compris.
J'ai cru comprendre que M. Leleu nous disait que les intérêts versés par l'État français à ce que lui prêtait indirectement
était le deuxième, deuxième budget après celui des questions nationales.
Ah bon, non. Attendez, y a un budget qui est le budget de la dette, mais il n'a rien à voir avec ça.
Bah, aujourd'hui,
vous l'avez trouvé, votre chiffre.
Vous allez sur le site du Front National 12, monsieur, vous le trouvez. Il n'y a aucun problème.
S'il en est.
Comment ? Bonne source. Hein. Des sources, monsieur. Je ne remets pas en cause les vôtres, ne mettez pas en cause les miennes.
Elles sont auto-sourcées, c'est ça votre problème.
Elles sont auto-sourcées.
Non, donc, les remboursements d'intérêt à la BCE nous coûtent fort cher.
Très, très cher, tout à fait. Et puis, on peut pas, aujourd'hui, l'euro est très cher. Hein. On ne peut pas dévaluer notre monnaie. On ne peut pas dévaluer aujourd'hui. Donc, le Front National aujourd'hui est pour une monnaie souveraine, un euro-franc, hein, ou un plestasque.
Et dévaluable.
Et dévaluable, tout à fait.
Vous savez ce que c'est la valeur d'une monnaie ? C'est un élément d'échange, une monnaie. C'est pas vous qui en faites la valeur. Mais c'est les gens qui vont lui donner la valeur, les autres. Or, actuellement, le problème de l'euro, c'est pas un problème qui est dû à l'euro, c'est un problème qui est dû au dollar et aux monnaies indexées sur le dollar, comme le RMB chinois. Et les Américains jouent avec ça en continu. Vous allez me dire comment vous faites, vous, pour avoir une monnaie qui va avoir sa propre valeur, qui va être appréciée par les autres. Dès le lendemain, vous perdez 20%.
Et si l'euro était si fort que ça, tous les pays européens qui ont l'euro en partage auraient le même problème d'exportation. Or, l'Allemagne est bénéficiaire dans sa balance d'exportation. Pareil pour l'Italie, pourtant un pays en quiddre. Donc, on veut dire qu'il y a peut-être un problème français plus qu'un problème de l'euro, en l'occurrence.
Monsieur Roche, sur la Banque Centrale Européenne, pour Debout la France.
Mais... l'euro, il nous condamne à la rigueur. Puisqu'on sait très bien que pour maintenir une zone euro, il faut respecter les critères Maastricht, notamment les 3% du déficit et 60% du PIB. Et c'est pas un euro à 6 qu'on fait là, c'est à 17, avec des pays qui ont une situation bien différente. Alors, ça fait des années qu'il y en a qui nous promettent l'Europe sociale, la relance et tout. Arrêtez quoi, on est en 2014, on va pas encore nous faire croire que l'Europe sociale va arriver demain.
Et est-ce que ça veut dire que quel est le sens de ça finalement de dire que par rapport à l'euro, qu'est-ce qu'il faut faire d'après Debout la France ?
Alors passer de la monnaie unique à la monnaie commune, l'euro franc,
qui viendrait en double.
Oui, pour pouvoir dévaluer la monnaie nationale et gagner des parts de marché à l'étranger, ce que font tous les pays. Les États-Unis dévaluent, le Japon dévalue. Et d'ailleurs, quand on regarde la croissance dans le monde, la zone euro s'enfonce, le Japon et les États-Unis repartent. On n'est quand même pas plus bêtes que les autres.
Monsieur Seta, pour Nouvelle-Donne.
Oui, alors je suis assez d'accord avec ce que Europe Écologie Les Verts a dit sur la BCE, avec notamment, là aussi, des traités à faire évoluer, en termes de gestion de la Banque Centrale Européenne. Par ailleurs, effectivement, la valeur de l'euro, c'est parce que actuellement on est sur une politique qui est uniquement fondée sur la lutte contre l'inflation, qui n'a pas d'autres objectifs pour la Banque Centrale Européenne, et que en plus, même, je dirais, on pourrait même comparer avec les États-Unis, la réserve fédérale, je sais plus comment s'appelle, son gouverneur, je crois, doit rendre des comptes et au gouvernement et au Congrès, enfin je veux dire, et puis avec parfois de sérieuses remontées de bretelles, si ça correspond pas
tous les 15 jours au Congrès, contrairement à une fois par an devant le Parlement européen.
Mmh. Voilà. Donc voilà, et je pense que c'est un vrai problème de fond. Ensuite, l'euro, évidemment qu'il faut continuer à le maintenir en place. Et je voudrais préciser une chose, parce que pour ceux qui regarderaient notre programme, nous aussi on parle d'euro franc, et je pense que c'est une erreur en termes de mots, parce qu'il n'est pas du tout question de créer une monnaie concurrente à l'euro au niveau de la France, mais tout simplement de créer pendant une période qui serait celle qui nous permettrait peut-être de faire évoluer le statut de la BCE, un appel d'air avec une sorte de monnaie locale française qui serait du même type que le Schco au Pays Basque ou le Sol à Toulouse, mais sur, sur l'espace français. Et donc c'est pas une monnaie concurrente de l'euro. L'euro franc serait à parité égale avec l'euro, mais ne pourrait pas être utilisé sur les marchés financiers, ni servir à acheter un logement, mais servirait à relancer une consommation locale. Voilà. Donc on a un projet de
une émission monétaire qui serait française et théoriquement au même niveau que l'euro. Voilà.
Si j'ai bien compris, c'est une monnaie complémentaire qui serait locale, à part qu'elle serait internationale.
Sur le, sur le territoire national. Voilà.
C'est quand même une émission monétaire, et prétendre qu'elle va conserver la parité avec l'euro me paraît un peu scabreux.
C'est la garantie que donnerait l'État. Ouais,
alors maintenant, je voudrais aborder, parce que là... Les deux premières questions, vous avez été exprimées, et puis vous étiez là pour ça, mais on avait le sentiment que le Parlement européen n'avait pas beaucoup de possibilités d'action. Sur la complexification normative, en revanche, on a le sentiment qu'il a un vrai regard là-dessus, qu'il est même plus ou moins responsable. Monsieur Gros, est-ce que je me trompe, et est-ce que effectivement il y a eu une complexification normative?
Il y a beaucoup de fables qui courent là-dessus. Gérard Onesta, qui a été, pourrait certainement le dire, mais on attribue, enfin certains partis disent que 80% de nos lois viennent de l'Europe, ça ne doit pas dépasser 20%. Quant aux normes, c'est normal qu'elles existent. À partir du moment où il y a des transactions commerciales, il faut qu'on ait les mêmes éléments d'un côté ou de l'autre. Il faut que, si vous voulez, il faut que le kilo pèse le même poids partout. Alors en fait, effectivement, on établit des normes, mais c'est pas ça qui est important.
Oui, mais actuellement,
par exemple, se négocier au Parlement une loi sur les DLC. Tout simplement parce qu'elle veut lutter, le Parlement européen, contre l'obsolescence programmée de beaucoup de produits et contre des DLC qui sont mis volontairement courtes par les fournisseurs, ce qui est compréhensible. Ce qui est compréhensible sur des produits frais, ce qui l'est beaucoup moins sur des conserves, par exemple. On a retrouvé dans des tombeaux égyptiens du miel qui était encore comestible, et les confitures, par exemple, peuvent durer largement plus que la date qui est indiqué, sauf peut-être la confiture de fraises qui peut changer de goût. Mais les fournisseurs, les fabricants essayent de mettre des dates courtes, et c'est le Parlement européen qui s'en occupe. C'est pas le Parlement français. Bon, il l'a pris. Et c'est peut-être pas le sujet primordial qui nous intéresse dans le vote que nous faisons, mais le Parlement européen n'est pas un endroit à édicter des normes. Il y a simplement des commissions. Nous avons notre député sortant Robert Rochefort, qui est ancien président du CREDOC et qui appartient à la commission consommation et qui travaille beaucoup, par exemple, sur les paiements sur Internet, sur les ventes sur Internet, sur un tas de choses qui effectivement dépassent le cadre de nos frontières et qui a besoin de faire pour protéger le consommateur et agir. C'est ça, normalement, l'intérêt des normes.
Monsieur Pradier, pour l'UMP, est-ce que, comme le dit Monsieur Gros, ma question sur l'apparente complexification des normes, le Parlement peut s'en exonérer ou est-ce que simplement il n'y a pas de complexification?
Si, il y a une complexification, mais il faut probablement voir deux choses. La première, c'est que les technos européens ne sont pas les seuls à créer la norme. Nous avons des bons technos en France aussi. Et bien souvent, sur bon nombre d'exemples, moi je suis élu local, je suis maire d'une petite commune, lorsqu'on a appliqué une norme, on sait bien souvent qu'elle est à l'initiative effectivement de l'Europe, on va le dire comme ça, mais passée par le filtre français et des technos français, là où l'Europe nous dit ce sera 1, bien souvent nous disons on se mettra au niveau 2. Les exemples ne manquent pas. Et lorsque je dis cela, c'est pour dire à quel point nos gouvernements nationaux aussi, mais nos administrations nationales également, ont une forte capacité à surproduire de la norme sur l'initiative européenne. Donc la responsabilité, elle est aussi nationale. Les Allemands, eux, sont tout à fait capables de dire que sur une question d'un escabeau pour ramasser les fruits dans les champs, les Français ont dit c'est terminé, on n'utilise plus l'escabeau pour ramasser dans les champs. Les Allemands ont dit on peut les utiliser jusqu'à 3 mètres. Bon, c'est ce qui s'appelle de l'intelligence simple, pas nécessairement allemande, mais je pense que les Français pourraient en être capables. Tout ça pour dire que la faute n'est pas systématiquement à l'Europe. Mais je veux dire autre chose. Je crois beaucoup au fait que la représentation politique de l'Europe est malade. C'est incontestable. Nous avons des élections. Aujourd'hui, nous sommes en train d'en débattre et c'est très heureux. Mais tant que l'Europe n'aura pas de véritable visage, Il y en a quelques-uns qui se démarquent, que l'on connaît, que l'on sait, à qui on sait demander des comptes. Mais tant qu'il n'y a pas de véritable visage à qui demander des comptes, alors, naturellement, enfermé dans une bulle bruxelloise, on peut se permettre d'édicter des règles, des dispositions, sans penser un jour avoir à rendre des comptes aux électeurs. Les députés nationaux, quand ils rentrent dans leur circonscription, qu'ils ont voté une mauvaise loi ou une mauvaise norme, ils se font engueuler. Les députés européens ont encore un peu ce privilège, parfois de ne pas tous rentrer dans leur eurocirconscription, bien souvent de ne pas être aussi connus que les députés nationaux, sans vouloir faire offense à M. Onesta, et donc ils se font bien moins engueuler, et quand on se fait un peu moins engueuler, on est souvent un peu moins vigilant.
Monsieur Onesta, moi j'observe que dans le bâtiment, quand je vois une norme française être transformée en norme européenne, ça multiplie généralement, et les normes françaises sont déjà pas tristes, mais ça multiplie généralement son nombre de pages entre 5 et 20.
Alors déjà, vous faites une erreur, c'est pas la norme française qui est transposée en norme européenne, c'est l'inverse. Une norme européenne qui est transposée en norme française. Parce qu'une directive, c'est un but à atteindre dans un calendrier déterminé. Le Parlement européen et le Conseil des ministres, parce qu'il co-légifère à deux, le Parlement ne légifère pas seul. Il y a le Conseil entre guillemets des gouvernements qui co-légifère. La différence, c'est que le Parlement, ça se fait de manière publique et transparente. Au Conseil, ça se fait toute porte close. Je ferme la parenthèse. Donc, une fois qu'une directive est, le cadre est donné, c'est à la sauce nationale que chacun, dans un délai déterminé, doit adapter ça. Et c'est là, et je rejoins ce que vient de dire monsieur le maire, c'est là que le délire technocrate français révèle son génie, parce qu'on est capable, effectivement...
C'est
là...
effectivement génial.
Oui, parce que le Parlement européen ne choisit pas de faire des normes. Une fois de plus, n'oublions pas que seule la Commission européenne, ce qui est scandaleux, a le droit d'initiative législative. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais levé un matin en disant « Mais quel bonheur, je vais me pencher sur la composition des gaz dans un tube de néon !» Ou sur, et ça m'est arrivé, sur la section des bananes. Simplement, c'est l'ordre du jour, la Commission européenne a décidé que... Voilà. Donc le Parlement européen n'a pas forcément envie de faire des normes, mais on lui impose dans son ordre du jour de faire des normes. Le problème avec l'approche normative, c'est qu'on part parfois avec des normes qui sont très protectionnistes dans certains cas, et d'autres qui sont beaucoup plus laxistes. Et la moyenne européenne fait que on se retrouve quelque part entre les deux. Alors pour ceux qui étaient un peu moins protégés, on va dire que l'Europe a fait avancer le Schmilblick. Mais pour ceux qui avaient une avance sur les autres, c'est une régression. Voilà pourquoi parfois l'Europe est totalement incomprise, parce qu'elle fait des régressions sociales et environnementales. L'Europe serait la meilleure chose du monde et serait parfaitement comprise si elle alignait sur le haut, chaque fois, la meilleure norme sociale, la meilleure norme environnementale, ce qu'elle ne fait pas. Donc le problème de la norme, retenez un, que c'est pas le Parlement qui veut, c'est qu'on lui impose, il faudrait que peut-être qu'il ait l'initiative politique de pouvoir faire le ménage dans tout ça. Deux, que quand il y a complexité, c'est très souvent, l'exemple de l'escabeau est parfait, mais les marchés de plein vent, combien de fois je me suis fait engueuler en tant que député, mais pourquoi vous nous avez imposé, vous les Européens, d'avoir 5 mètres linéaires de bac à glace, etc. C'est la France qui avait demandé ça. L'Europe avait simplement dit, où que soit vendue la nourriture, il faudra qu'on prenne les précautions pour qu'elle soit consommable. Point final. Le délire en nombre de watts et mètres linéaires de cubes de glace, c'est la France. Et dernière chose, l'approche normative doit être toujours alignée sur ce qui se fait de mieux, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en Europe. Le problème de la norme, il est là. Alors en plus, quand on fait des normes internationales à travers des traités genre TAFTA, où ça se fait dans le secret avec des arbitrages uniquement privés, là ça pose encore plus de problèmes, mais la norme européenne est telle que je viens de le dire.
Juste quelques mots.
Monsieur Cetta, pour Nouvelle-Dame.
J'ai expérimenté à titre personnel dans mon travail les normes européennes dans le domaine de la santé, sécurité au travail. Là, on était harmonisation par le haut, donc on était plutôt dans des bonnes conditions. Et enfin, en pratique, ça a plutôt simplifié la réglementation européenne. Absolument. Dans la mesure où pour tous les équipements de travail, la norme est la même. Pour tous les équipements de protection individuelle, la norme est la même. Et donc, en pratique, il n'y a pas 28 normes, mais une. Et donc, le développement de normes au niveau européen, quand c'est bien géré, c'est plutôt positif et ça va dans le sens d'une Absolument. Réduction de ce qui s'impose à chacun des pays.
Alors, on va sortir du problème normatif, parce qu'il faut qu'on accélère un petit peu si on doit parler du rôle du Parlement. Mais j'ai une dernière question dans qu'avez-vous fait. Je vais me tourner vers ceux qui y ont été assez peu. Je vais demander à Sandra Tarumacha, en matière de conflit, parce qu'on nous dit toujours l'Europe, c'est la paix. Oui, c'est la paix, évidemment. La France et l'Allemagne n'envisagent plus de se faire la guerre. Mais on a eu à nos portes, on a eu les Balkans. Ça a duré plusieurs années. On a maintenant l'Ukraine. Chypre n'est pas en paix. Et la Syrie n'est pas loin de nous. Alors, est-ce que là, le Parlement, qu'est-ce qu'on a à faire sur cette gestion des conflits, d'après Lutte ouvrière ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut être très clair sur le but de la construction européenne. Hein, la fable comme quoi c'est pour éviter la guerre et maintenir la paix sur ce continent, c'est faux. Hein, c'est
ça a quand d'ailleurs même réussi depuis 60 ans quand même. Ça nous était jamais arrivé.
Si vous permettez, je finis mon raisonnement. Donc, je crois que le problème qu'ont donc un certain nombre de capitalistes européens, français notamment, c'est d'arriver à trouver toujours plus de marchés, de débouchés. Et c'est pour ça, donc, il y a eu deux guerres mondiales le siècle passé. Et c'est justement à cause de cette situation de division et donc de concurrence, en position défavorable par rapport aux États-Unis notamment, que finalement, avec beaucoup de difficultés, un certain nombre d'États européens, parce que ça correspondait à une nécessité des bourgeoisies européennes, ont essayé de construire quelque chose. Ça fait 60 ans qu'ils essayent de construire quelque chose, poussés par des nécessités économiques. Mais il faut bien dire que c'est pas une réalisation qui est aboutie, c'est la moindre des choses qu'on puisse dire. C'est très compliqué et 60 ans après, on voit que c'est vraiment loin, loin, loin d'être abouti quand on voit la situation qui est faite pour bien des Européens et notamment leur droit à circuler. Ce qui n'est pas le cas pour les marchandises. Hein. On voit encore là aussi la priorité qui est donnée aux marchandises. Donc, c'est pas étonnant que finalement, c'est les rapports de force sur le marché, c'est-à-dire au niveau économique, qui dominent. Et donc, dans le cas, par exemple, de la Yougoslavie, on a vu la position politique de l'Allemagne qui était différente de celle de la France et qui ont attisé et encouragé et donc, finalement, alimenté des nationalismes qui ont amené à un conflit, effectivement. Donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ce que peut faire l'Europe. Et pour qu'il y ait une situation d'essor, de développement, que ce soit au niveau économique ou même donc, du point de vue de la paix, il faut plutôt compter sur les travailleurs plutôt que sur des institutions qui... je ne vais pas revenir... beaucoup en arrière, mais la Société des Nations qui avait été faite après la Première Guerre mondiale était censée empêcher la deuxième, et ça ne l'a pas empêchée. Donc ne prêtons pas à l'Europe des volontés pacifistes qu'elle n'a pas.
Monsieur Vessière, sur cette paix que nous a apportée l'Europe, est-ce qu'elle est aussi complète qu'on veut bien nous le dire, et est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait ?
Est-ce que la situation est parfaite ? À l'évidence, non. Mais j'écoutais l'interlocuteur précédent, on ne peut pas comparer le rôle qu'a pu avoir la SDN et le rôle de l'Union européenne aujourd'hui. La SDN, effectivement, ce fut un échec. La construction européenne, sur ce point, je pense qu'on ne peut pas objectivement ne pas retenir que c'est un succès absolument indiscutable. Nous sommes manifestement une zone de paix, une zone d'État démocratique, une zone où... nous avons des pays qui sont attachés aux valeurs humanistes, aux valeurs démocratiques, et ça, c'est une réalité.
Excusez-moi, mais vous avez fait référence à ce que j'ai dit. Donc, c'est pas une Europe ni démocratique.
On est déjà très en retard, et je souhaiterais que tout le monde puisse s'exprimer.
Alors, en revanche,
dans votre intérêt d'ailleurs.
En revanche, il est vrai que aux portes de l'Europe, nous avons des situations qui sont dramatiques, et ce que l'on peut regretter, c'est que l'Europe n'est pas aujourd'hui un poids politique suffisant, parce qu'il n'y a pas de voix unique, de voix commune en matière de politique extérieure, en tout cas suffisamment audible, de manière à ce que nous puissions agir de manière plus efficace aux portes de l'Europe. C'est une évidence, c'est une réalité, c'est une fragilité politique qui est liée simplement, à mon sens, au fait que la construction européenne, eh bien, elle n'est pas allée suffisamment loin. Et je crois que l'objectif, en tout cas celui des parlementaires du PS et du PRG, c'est effectivement d'amener à ce que la construction européenne aille encore plus loin et permette à l'Europe d'avoir une voix en matière de politique extérieure qui soit commune.
Monsieur Leleu, sur cette paix en Europe.
Ce qu'on oublie de dire, c'est parce qu'il y a eu la paix qu'il y a eu l'Europe. avant tout.
Est-ce qu'elle est effective?
C'est parce qu'il y a eu la guerre qu'il y a eu l'Europe. Oui, c'est sur les cendres d'Auschwitz qu'on a créé l'Union.
Oh là là.
Monsieur Roux.
Moi, je me réfère à un auteur peu connu, mais qui a été député européen, qui est Gérard Onesta, qui a expliqué que en 1806, l'Europe allait de Brême à Rome, je crois, au Tibre, et qu'elle comptait 140 départements, ça doit être ça. Aujourd'hui, elle y va, mais dans des conditions de paix, alors qu'à l'heure, c'était la guerre. Alors, quant à problème de la paix et de la guerre, il faut remarquer que la construction de l'Europe a commencé un peu avant 57 par la communauté économique du charbon et de l'acier qui avait été envisagée par Robert Schuman. Il pensait que en mettant en commun l'acier et le charbon, il privait les Allemands de la possibilité de construire de l'armement. Et tout de suite après, on a envisagé la CED, la Communauté Européenne de Défense. C'est les Français qui l'ont envisagé. Et quand il s'est agi de voter, la France a dit niet. Et depuis, on n'aborde plus le sujet de l'armée et de la défense européenne, avec deux pays essentiellement qui sont contre, c'était la France et c'est surtout l'Angleterre qui, elle, s'abrite derrière le parapluie américain. Donc, il est évident que, par exemple, il y a deux pays qui ont une armée assez puissante en Europe, enfin assez puissante aujourd'hui, c'est difficile d'en parler, mais chez nous, les Français, nous devons dépenser 2,6% de notre budget pour la défense, et les Anglais, c'est à peu près le même chiffre. Mais nous sommes à peu près les seuls. Et nous voyons qu'au Mali, où il y a à intervenir, l'Europe n'est pas derrière nous. Et quant à la guerre en Bosnie et autres, bah, nous nous sommes mis derrière le char américain. Nous avons suivi. Et en fait, effectivement, il y a un déficit considérable on a parlé d'un petit embryon d'armée franco-allemande, mais il y a un déficit considérable. Et nous, je vous ai dit 2,6% de déficit. Il est inconcevable aussi que les pays qui ont une défense nationale voient le montant de cette défense nationale dans le déficit, parce que d'autres s'en privent en s'abritant derrière les autres. Et nous sommes à 3% limités, comme si nous n'avions pas d'armée.
Monsieur Pradier, sur cette défense européenne, puisque Monsieur Gros a amené la discussion sur ce terrain, sur la défense européenne.
Oui, un mot rapide parce que on est un certain nombre de plus jeunes, de moins jeunes, mais de plus jeunes autour de la table. Pour ma part, j'ai 28 ans et je suis terrifié, mais je vous le dis, terrifié d'entendre un discours qui consiste à nier totalement le rôle de l'Europe dans la paix. Je trouve ça consternant. Je vous le dis comme je le pense, que l'extrême gauche est une fixation permanente, totale, exclusive sur le capitalisme et les travailleurs, c'est votre droit. Mais que ça vous pousse à ignorer l'histoire de l'Europe et l'histoire de ce pays, je trouve cela terrifiant. Chère madame, il y a quelques jours, j'étais devant un monument aux morts, comme maire d'une commune, et j'ai cité des jeunes gens qui avaient 22 ans, qui sont tombés sous le drapeau tricolore. C'était une guerre. Bon, je veux bien que vous nous disiez que la société, la SDL, était un échec. Peut-être considérerez-vous, pardon, que l'URSS était un succès et que l'Europe est un échec. C'est faux. Sur le front de la paix et sur le front de l'union des peuples, l'Europe est un grand succès. Et nous n'avons pas le droit, quelles que soient nos convictions, d'ignorer cet élément d'histoire majeur. L'Europe a réussi à faire la paix, a réussi à unir les peuples. Elle a encore beaucoup à faire. La question de la défense européenne est une question majeure. Il y a un embryon d'état-major qui a déjà été mis en place, c'était par le gouvernement précédent. Mais là aussi, c'est le leadership des gouvernements qui est essentiel, car la défense, ça reste, c'était à l'origine de la création de l'Europe, et ça reste aujourd'hui un des sujets les plus difficiles à traiter au niveau européen, notamment d'un point de vue budgétaire. Il y a à faire beaucoup plus encore, parce que la guerre existe, et pardon de vous le dire, on ne peut pas l'ignorer.
Alors, monsieur Onesta, sur cette
défense européenne... Je réclame quand même le droit
européenne
à la réponse, puisque le Parti Socialiste m'a interpellé, l'UMP aussi... Donc simplement très brièvement, je répondrai à l'UMP que moi je vois très bien qu'ils sont focalisés sur la défense des riches et des intérêts des patrons, dont Serge Dassault.
L'avantage,
c'est que
votre discours ne varie pas.
Le vôtre non plus d'ailleurs. Hein. Donc non, simplement pour répondre, puisque je suis interpellée, j'y réponds. Donc c'est votre vision justement et manifestement les électeurs ne vous suivent pas tellement puisque sinon vous seriez plus convaincant. Donc l'Europe aujourd'hui,
34% aux dernières élections.
Vous m'avez interpellé, vous écoutez la réponse en tout cas pour vos auditeurs.
Mais là, ça est représentant de lutte ouvrière. Et pas
pardon,
allez,
okay, très bien. Si j'ajoute le reste, on doit monter à 7%.
Alors moi je réponds à ce que vous dites. Là, sur l'Europe, vous avez l'air de vouloir raconter à nouveau un conte de fées. Eh bien justement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la société, elle est organisée en fonction de ceux qui ont l'argent et en donnant cette idée soi-disant idéaliste.
Nous avons compris que c'était votre point de vue, madame Tarabouche.
Oui, mais
nous savons.
Je suis
monsieur Onesta, s'il vous plaît.
Oui. Je réponds.
Bien, alors...
Sur la défense européenne, parce que on doit constater quand même que la première puissance économique mondiale, la Fédération européenne, n'a pas d'armée.
Voilà.
Alors, je sais pas singulier.
Alors, justement, puisque vous, votre question, c'est chaque fois, c'est qu'avez-vous fait concrètement? Moi, je me rappelle en 1999, avec 14 collègues, nous avons fondé l'Intergroupe pour une constitution européenne, qui a abouti, malheureusement, à ce pavé indigeste, hein, qui était de 2005, le TCE, qui a été transformé en un traité encore plus indigeste, le traité de Lisbonne. Mais il y a au moins une phrase dont je suis fier dans ce machin-là. C'est que pour la première fois dans l'histoire humaine, il est écrit qu'une politique étrangère est basée sur la prévention des conflits. La prévention des conflits. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire humaine et c'est l'Europe qui l'a porté. Je pense qu'il faut en être fier. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, comment on prévient les conflits si on n'a pas les moyens de prévenir les conflits? On s'est donné aucun moyen. Quand je discutais à la Commission des Affaires étrangères au Parlement européen avec des militaires, et je appartiens à un parti des écologistes, vous savez, qui sont très anti-militarisme, ils nous disaient, monsieur Onesta, si on mettait en commun nos moyens de production, nos moyens de projection, comme ils disent, eh bien, on pourrait diminuer par quatre, les budgets militaires de chacun de nos pays. Imaginez, d'un seul coup, si tous les budgets militaires des 28 pays de l'Union européenne, on pouvait les diviser par quatre, sans rien changer à je ne sais quelle politique belliciste. Et cet argent, on le met au niveau européen, ça multiplie par 3 ou par 4 le budget de l'Union européenne du jour au lendemain. On peut en faire des choses pour le social, pour l'environnemental. Vous voyez, c'est un pacifiste qui vous dit ça. Mais pour ça, effectivement, il faudrait que l'on ait également une diplomatie commune. En théorie, on l'a incarnée par Madame Catherine Ashton, une baronne anglaise socialiste, cherchez l'erreur, qui a été placée là justement parce qu'on savait qu'elle ne ferait aucune ombre à aucune des 28 diplomaties qui ont continué à exister par ailleurs. Dans cette cacophonie générale, les 28 nains qui se chevauchent n'ont jamais fait un géant. On pourrait faire des économies, on pourrait promouvoir la paix dans le monde par la prévention des conflits, et une fois de plus, et je rejoins ce qu'a dit l'interlocuteur précédent, on peut nier beaucoup de choses à l'Europe. Mais pas la paix intérieure, pas la paix intérieure. On s'est foutu sur la gueule pendant 2000 ans, en moyenne tous les 2 ans, ça fait 60 ans qu'au moins on se respecte, et ça, chapeau l'Europe.
Alors, nouvelle donne sur cette défense européenne, monsieur Seta.
Juste un mot complémentaire, en fait, je pense que certains autour de la table me rejoindront. Je pense qu'on n'arrivera pas à avoir une défense et une diplomatie commune tant qu'on n'aura pas davantage intégré la construction européenne et qu'on n'aura pas davantage de démocratie vrai Parlement. Voilà. Je pense que c'est le chemin.
Alors, on en vient maintenant au pouvoir effectif du Parlement européen. On nous dit, on nous avait déjà dit, il peut censurer la Commission européenne.
Pas très bien rendu impossible. Compte. Les 2/3 des voix, et chacun protégeant les siens, c'est impossible. J'ai déjà essayé 3 fois.
On nous a dit maintenant... il va élire le président de la Commission européenne. On oublie de nous dire que c'est les États qui vont désigner les commissaires, c'est-à-dire les ministres. Comment ça va se passer s'ils ne s'entendent pas? Et en plus, il y a des murmures disant qu'il ne désignera pas effectivement le président de la Commission européenne. Alors, je voudrais entendre le Front National là-dessus, monsieur Leleu, puisque quel va être votre comportement par rapport à la nomination et à la Commission européenne et,
En façon, entre Juncker et Schulz, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est aussi simple que ça. Pardon ?
Entre Marine et Jean-Marie.
Ah, allez. Donc c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui...
Monsieur...
Vous n'êtes pas méprisant, s'il vous plaît.
Monsieur Pradier, s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Je ne peux plus me
retenir. Pardon ? Bon, monsieur Leleu, vous avez la parole pour le Front National.
Oui, mais bon.
Donc, à propos des pouvoirs du Parlement européen vis-à-vis de la Commission.
Alors, aujourd'hui, nous, on va l'affronter de l'intérieur. On espère créer un groupe parlementaire... Ni plus ni moins. On ne présentera pas de candidat justement à cette commission européenne, puisque aujourd'hui on nie tout pouvoir exécutif à cette commission.
Bien. Donc vous déniez de toute façon les capacités du Parlement et les pouvoirs de la commission.
Tout à fait. Bon.
C'est-à-dire que clairement, si vous aviez par extraordinaire une majorité au Parlement européen, vous prononceriez immédiatement sa dissolution.
C'est tout à fait, ça, monsieur.
D'accord. Ça serait possible, monsieur Anista, d'ailleurs ?
Non, c'est beaucoup plus compliqué que
c'est
ça.
Le Parlement qui s'autodissout,
c'est pas prévu dans les traités, mais on peut tout envisager dans l'histoire. Après tout, l'Europe ne respecte pas toujours ses propres règles, et parfois c'est tant mieux, parce que par exemple, la règle interdit à la Banque Centrale Européenne de prêter aux États, et pourtant dans la crise, elle le fait, et c'est très bien de le faire.
Alors, sur ce pouvoir du Parlement européen, déjà par rapport au président de la Commission, mais on nous présente comme étant l'élection la plus majeur par rapport aux élections européennes. Jamais le Parlement européen, nous dit-on, n'a eu autant de pouvoir qu'il va en avoir. Est-ce que c'est exact, M. Pratier, pour l'UMP ?
Écoutez, je ne sais pas, M. Onesta, qui pratique la maison, pourra nous en dire peut-être un peu plus. Ce qui est incontestable, c'est que depuis quelques décennies, il y a une évolution positive. Ça a été dit au début de notre discussion par un des intervenants. Et donc, on va effectivement vers, petit à petit, plus de pouvoir au Parlement européen. Bon, c'est plutôt une chose heureuse. Alors, naturellement, dans les débats européens, il y a toujours à la fois, d'un côté, les observateurs, le cas du Front National, ils vous disent, écoutez, nous, on observe. On n'est pas d'accord, mais on observe. On ne met pas les mains dedans parce que ça brûle, mais on observe. Vous avez les contestataires fermes et définitifs qui vous disent, nous, on n'est pas là pour faire avancer, on est là pour dire qu'on est en colère. Puis vous avez les autres qui, finalement, sont parfois autant le PPE, c'est-à-dire l'UMP, que certains écologistes qui disent, bon, ben, on va essayer de faire avancer la machine. Considérons aussi que les socialistes, parfois, peuvent l'être. C'est rare, mais ils peuvent l'être. Bon, on fait un petit peu avancer la machine pour faire en sorte que les pouvoirs démocratiques, en tous les cas ceux du Parlement européen, se renforce. Bon. Mais je pense néanmoins qu'il y a un problème de plus fondamental. Moi, j'ai par exemple un problème avec ces euro-circonscriptions. Je le dis comme je le pense. Je considère que la représentation d'un élu, ou l'efficacité de la représentation de l'élu, c'est d'abord l'efficacité de son territoire, ou la cohérence de son territoire. Bon, les euro-circonscriptions, moi, mes administrés, ils comprennent rien. Ils comprennent pas qu'il y a Languedoc, Midi-Pyrénées. Bon, bref, ils trouvent, et Aquitaine, ils trouvent que c'est très grand. Bref, on a un problème, je crois, d'ancrage territorial, déjà. Et je veux ensuite, pour finir mon propos,
il s'exporte
dire
mal.
Qu'aujourd'hui, on a eu, il y a des débats depuis quelques semaines qui annoncent pour chacune des grandes formations politiques le candidat. Bon, je trouverais aujourd'hui absolument dévastateur pour l'idée qu'on peut encore un peu se faire de la démocratie européenne, que ce ne soit pas un de ces candidats qui finalement soit désigné. C'est vrai pour mon camp, comme c'est vrai pour le reste des camps politiques qui puissent...
Si je comprends bien, vous entendez ceux qui insinuent que ce serait possible.
Mais j'entends tous ceux qui insinuent, mais vous savez, le grand charme des débats européens, c'est que tout le monde insinue. Alors vous avez toujours un truc qui sort au moment des élections européennes, pour faire peur, c'était le plombier polonais il y a quelques temps, maintenant c'est l'accord transatlantique, là, alors tout le monde ressort son bout de papier, dans tous les débats, chacun arrive avec son truc indigeste, et essaye de faire croire à l'autre qu'il a mieux compris. Bon,
vous en parlez dans vos documents de campagne de la
campagne. Oui, probablement. Vous les avez mieux lu que moi, mais ça n'empêche pas de les critiquer. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à susurrer beaucoup de polémiques ou d'inquiétudes dans les débats européens. Et donc, j'entends effectivement dans les débats depuis quelques semaines qu'on nous dit, mais il se pourrait que ce ne soit pas un des candidats annoncés qui finalement prenne la main. Moi, je vous le dis clairement, ma position, elle est nette. Ça doit être un de ces candidats qui doit prendre la main, quel qu'il soit.
Alors parmi les sceptiques qui sont autour de la table, il y a Debout la France, M. Arnaud Roche, sur ses pouvoirs du Parlement européen et sur sa capacité à élire un président
Alors,
de la Commission.
L'élection du président de la Commission par le Parlement, c'est du bricolage. Le traité de Lisbonne, qu'est-ce qu'il prévoit ? Il prévoit que c'est le Conseil européen qui soumet un candidat au Parlement européen qui doit l'élire. C'est-à-dire qu'il faut avoir 371 députés. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y a aucun groupe qui aura la majorité pour voir son candidat choisi. Qu'est-ce qui se passe en cas de refus du Parlement ? Eh bien, le Conseil européen tranche, choisit le président. C'est du bricolage. C'est aussi vrai que l'inversion de la coupe du chômage.
Vous avez vu ça où ?
Non. Dans le traité de Lisbonne.
Monsieur Gros,
je peux lire l'article aussi.
C'est un manque de connaissance de la pratique du Parlement européen, dont Monsieur Onesta pourrait parler mieux que moi, mais le Parlement européen, c'est un lieu de compromis. On a vu très souvent une mandature avoir un président du Parlement conservateur pendant 2 ans et demi et lui succéder un socialiste pendant 2 ans et demi, suivant des accords qui sont passés entre eux. Et là, pour l'élection du président, il est vrai que ça devra être un des cinq. On sait que
de la Commission.
Oui, de la Commission. On sait que ça devrait être un des cinq et que Mme Merkel s'oppose à ce que ce soit Schulz. Par ailleurs, il apparaît qu'il peut y avoir une coalition entre socialistes, écologistes et nous-mêmes les centristes pour un candidat. Mais de toute façon, effectivement, ça sera un Parlement, mais c'est forcément une question de compromis. Il peut être écrit ce que vous voulez dans les traités. On n'est pas au Parlement européen comme au Parlement français. Hein. On ne se traite pas de tous les noms à tout bout de champ.
Mais on vient à blanc-bonnet et bonnet blanc au final.
Bon, d'accord.
C'est à l'image de la politique française.
Non, mais d'accord.
Et vous comme ça, je vais dire la même chose de vous et de Monsieur Leleu. À ce moment-là, vous êtes bonnet blanc.
Mais les gens, les gens le voient très bien. Hein.
Vous allez me dire que c'est pas du tout la même chose.
Monsieur Seta, pour Nouvelle-Donne, ce pouvoir du Parlement, est-ce que déjà il va être effectif et qu'est-ce qu'il va nous apporter sur cette élection du président de la Commission?
Écoute, moi, je dirais tout simplement que c'est vrai, on constate que progressivement la démocratie au sein de l'Europe se développe, mais elle se développe à une vitesse d'escargot. Et je dirais que je pense que c'est une bonne chose que le Parlement se prononce sur le président de la Commission. C'est mieux que de pas le faire. Mais je crois qu'on est encore très très loin de ce qu'il faudrait pouvoir avoir en place avec un vrai Parlement avec des pouvoirs notamment de proposition. Voilà, donc je dirais c'est une avancée, elle n'est pas énorme, et puis je crains qu'effectivement avec les petits arrangements on n'est pas trop... Non mais ça va être entre Juncker et Schulz, voilà, bon. Non.
Monsieur Weissier, pour le Parti Socialiste.
Je crains que ce
soit ça. Vous craignez vos espoirs.
Bah, vous dites que l'avancée n'est pas majeure. Qu'elle ne soit pas suffisante, je suis d'accord. Il est vrai que ce qui serait, à mon sens, véritablement une grande avancée, ce serait si, enfin, le Parlement européen disposait de ce pouvoir d'initiative. Là, oui, on aurait une avancée historique. Après, c'est vrai que pour certains de notre génération, l'Europe, ça représente peut-être une vieille histoire, mais à l'échelle de l'histoire, l'Europe, elle est née hier. Donc il faut aussi laisser le temps aux institutions de mûrir, de grandir. Aujourd'hui, nous savons que le prochain président de la Commission devra avoir la majorité du Parlement européen derrière lui. C'est manifestement une avancée, parce qu'il aura dès lors une légitimité à caractère politique. Alors après, que certains considèrent que ce n'est pas suffisant, on peut l'entendre. Mais il n'en demeure pas moins que dans le cadre de la construction européenne, on assiste bel et bien en 2014 à une avancée manifeste et indiscutable.
Madame Torre-Mocha, pour Lutte Ouvrière, cette élection du président de la Commission.
Alors je crois que malheureusement, certains de nos auditeurs ont dû déjà débrancher parce que cette si grande avancée de l'élection du président de la Commission n'intéresse vraiment personne. Hein. Je peux vous dire que sur le terrain, c'est vraiment pas de ça que discutent les travailleurs, c'est pas leur préoccupation. Et je crois bien que ça montre vraiment la coupure qu'il y a entre les représentants dans ce Parlement européen et les travailleurs. Aujourd'hui, le problème des travailleurs, c'est pas de savoir si le président va être élu par un tel ou un autre, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va prendre comme décision et surtout qu'est-ce qui va changer concrètement la vie des travailleurs. Est-ce qu'on va avoir une augmentation de salaire pour pouvoir payer toutes les factures ou est-ce qu'on va continuer à être à découvert le 10 du mois? Donc c'est ça qui préoccupe. Donc justement aujourd'hui on parle d'un taux d'abstention extrêmement élevé, mais il ne faut pas s'en étonner. Quand y compris des débats qu'on organise sur ces élections européennes tournent autour de sujets comme est-ce que le pouvoir est plus ou moins partagé, un petit peu partagé, il dépend des uns des autres. Tout le monde voit bien qu'en tout cas le pouvoir, il n'est pas entre les mains de ceux qui sont directement concernés par les conséquences. Donc moi, je pense que si on parle de démocratie, il faut une démocratie directe, il faut des élus qui soient révocables à tout instant, qui rendent compte à la population directement de ce qu'ils font. Et ça, c'est valable au niveau européen comme au niveau national. Donc je crois que là encore, il ne faut pas se leurrer. L'Europe aujourd'hui, elle est faite par et pour des intérêts qui sont avant tout économiques. Et la population, les travailleurs, ils sont complètement oubliés de cette Europe. Voilà. Donc moi, j'incite ces travailleurs à se prononcer dans ces élections en faveur du vote Lutte Ouvrière pour dire justement la colère et le désaveu de tous ces politiques qui promettent monts et merveilles, qui ont que des termes comme démocratie. J'entendais le Parti Socialiste tout à l'heure, avancée historique. Quand on est au pouvoir, qu'on fait un pacte de responsabilité, qu'on donne des milliards au patronat en prenant 50 milliards dans la poche des travailleurs, c'est assez honteux d'entendre ce genre de propos encore.
Gérard Onesta, sur l'élection de ce président de la Commission, déjà, est-ce qu'effectivement il va être élu par le Parlement et est-ce que ça va lui servir à quelque chose parce qu'il sera quand même à diriger des commissaires qui, eux, seront nommés par les États?
Alors, c'est potentiellement, je dis bien potentiellement, un tournant historique de l'histoire de l'Union européenne. Jusqu'à maintenant, la Commission a toujours été vécue par le Conseil, c'est-à-dire le chef d'État et le gouvernement, comme un petit secrétariat du Conseil. On choisissait celui qui ne faisait pas d'ombre et qui allait filer doux. On ne connaissait d'ailleurs pas son nom avant les élections. Fiche mon billet, en 2004, personne n'avait entendu parler du Portugais Barroso qui, quand ils ont fait le petit jeu « ça sera toi qui t'y collera », s'est tombé sur lui parce qu'il fallait un petit pays plutôt attentiste. Il venait de donner les gages à Bush au sommet des Açores. Il était parfait dans le rôle, suffisamment libéral pour être soupçonné des Chines. C'est comme ça que ça se passait avant. On peut espérer, mais la partie n'est pas gagnée, que ce soit, comme dans une démocratie normale, qui, à la majorité au Parlement, désigne le chef du gouvernement. C'est ça, c'est ce qui se passe normalement dans une démocratie normale. Mais le jeu n'est pas certainement gagné comme ça. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les chefs d'État et le gouvernement, toujours le réflexe nationaliste, n'ont pas forcément envie de voir émerger à leur côté, eux qui se voient toujours les gouvernants, ce qu'ils ne sont pas, et de voir émerger un chef de l'exécutif européen puissant qui tirerait sa légitimité non pas de bon vouloir des princes à huis clos, mais du vote des citoyens. Madame Pérémochard, vous dites que ça n'a aucune importance. Si, quand même, choisir qui nous dirige en démocratie, c'est quand même une base. Donc, le risque, c'est que les chefs d'État passent outre, et ce serait vraiment un déni de démocratie absolument gravissime, ou que, autre risque, c'est que les deux éléphants, les socialistes et le PPE, les sociodémocrates et les démocrates sociaux, cherchaient l'erreur, se mettent trompe dans la trompe et se partagent le rôle. Moi, je suis pour l'émergence d'une coalition sur la base d'un programme pour changer l'Europe, sur la base de tout ce qui a pu se dire autour de cette table ce soir, en tenant compte effectivement de ce qu'ont dit les citoyens dans l'urne dimanche soir. Et à partir de là, on n'aurait plus une commission larbin des chefs d'État qui serait uniquement des fonctionnaires, mais un exécutif, un gouvernement européen. Ce serait un début. Et ça va se jouer dans le mois de juin.
On aurait un chef de gouvernement qui aurait une légitimité démocratique, mais qui aurait à agir sur des commissaires qui, eux, ne l'auront pas.
Non, parce qu'il a beaucoup de pouvoir, notamment de distribuer les portefeuilles. C'est-à-dire, quand vous avez quelqu'un qui ne vous plaît pas, qui vous est éventuellement imposé par un État, eh bien, vous ne donnez pas forcément à ce commissaire-là les clés du camion. Vous ne donnez pas forcément les clés du camion. Jusqu'à maintenant, comme ça se passait entre chefs d'État et de gouvernement, l'Allemagne avait toujours l'industrie, c'est quelque chose qui compte lourd. Si jamais demain, le président ou la présidente de la Commission, car je vous rappelle que les écologistes ont fait l'effort de présenter non pas un homme, mais un homme et une femme, pour laisser le choix au Conseil entre un homme et une femme, dont un qui est aveyronnais, donc ça doit parler à nos auditeurs. Hein. Après tout, entre un luxembourgeois, un allemand, un belge ou un aveyronnais, il faut quand même choisir l'aveyronnais, nous sommes tous d'accord ici. Donc,
sauf l'autoile.
Oui, effectivement. Mais très clairement, ce choix-là pourrait être historique, mais il pourrait être basé sur une coalition politique, et non pas sur un arrangement où les gens qui sont impérativement, normalement contraires, le PPE qui incarne les conservateurs, les socialistes qui incarnent les socialistes.
La coalition politique, c'est la nuance par rapport à compromis dont parlait
voilà.
M. Gros.
Voilà, et là, on changerait complètement d'Europe. Mais alors, ça voudra dire passer sur le corps de certains membres du Conseil européen. Alors, la chance, c'est qu'avant, il fallait l'unanimité. Voilà comment l'Anglais a pu barrer la route à Verhofstadt, qui aurait fait un bien meilleur président de commission que Barroso, bien meilleur. Maintenant, c'est majorité qualifiée, c'est-à-dire que l'Anglais ne pourra pas bloquer s'il y a. Encore faut-il que le Parlement, nouvellement élu, soit fier de sa force, sûr de sa force, et applique son droit. Et ça, c'est pas gagné. Et ça, c'est pas gagné, parce que l'histoire nous a enseigné que les grands groupes, au premier coup de sifflet, se couchaient. On l'a vu sur le budget européen, où chacun, les six grands groupes, avaient juré sur leur grand Dieu que jamais on ne baisserait le budget européen. Une fois que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de baisser dramatiquement, ce qui est une faute historique, alors que l'Europe en a vraiment besoin de changer de nature et donc de moyens, eh bien, au coup de sifflet, ils se sont couchés. Alors, c'est pas le cas des écologistes, mais pour les deux grands groupes qui vont représenter certainement à eux seuls, s'ils font jonction, une majorité au Parlement européen.
On parle du PPE et des socialistes.
Et des socialistes. Le risque, il est là. Moi, j'appelle les camarades socialistes à ne pas tomber dans ce jeu-là. Si la droite gagne et qu'elle fait l'alliance avec les libéraux, qu'elle est majorité, je suis démocrate, je reconnaîtrai la défaite de mon camp et je trouverai normal que pendant 5 ans, puisque les électeurs l'auront voulu, que ce soit eux qui gouvernent. Mais de grâce, si jamais il y a une alternative, une coalition possible, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus progressiste, n'allez pas vous vendre pour avoir un demi-perchoir au Parlement européen ou je ne sais quel semi-président de l'Eurogroupe. Fonder l'Europe sur des bases politiques, c'est maintenant ou peut-être jamais.
Bien, je donne la réponse aux trois concernés, à ceux qu'on a accusés de se coucher. Alors, Monsieur Gros,
moi je voulais juste...
au Parlement européen, ça s'appelle comment
je parlais de compromis. Compromis, c'est la négociation qui est faite par une coalition. Mais j'apprécie tout à fait ce qu'a dit M. Onesta, mais je voulais répondre à Mme de Lutte Ouvrière, parce que notre candidat aveyronnais de notre liste est un travailleur. C'est un cultivateur.
Personne n'est parfait.
Et voilà. Et il dit que seule l'Europe peut sauver nos emplois. Et il explique que dans le cadre de la mondialisation qu'il y a, seule l'Europe peut nous donner la force de sauver nos emplois.
Bon, moi je voudrais donner la parole à M.
Bernard
Pradier,
Casals,
qui est ici le représentant du PPE, qu'on vient d'accuser de s'être couché au premier coup de sifflet.
Ah, c'est pas le seul.
Du Conseil des ministres.
S'il y avait eu que le PPE, on aurait gagné.
Mais on va demander à M. Vessia.
C'est le privilège des. Pas des petits partis, parce que j'aime pas dire ça, mais des partis qui ne sont pas la majorité, de toujours accuser les autres d'être trop disciplinés. Bon, voilà. Et c'est vrai que, de ce point de vue, convenons-en, les écologistes ne sont pas ni des hommes ni des femmes très disciplinés. Mais ce que je voudrais dire sur ce point-là, hier soir, j'écoutais Pierre Moscovici, à qui était posée une question très intéressante. Oui, ça m'arrive parfois de l'écouter, c'est douloureux, mais... depuis qu'il n'est plus en poste, je l'écoute avec d'autant plus de plaisir. Et la question lui était posée en disant, mais s'il y a une majorité à droite, majorité PPE, et qu'on vous propose un poste, est-ce que vous le refuseriez? Éthique oblige, fidélité en ses idées. Ça a duré un petit quart d'heure, il n'a pas répondu. Je considère qu'homme intelligent qu'il est, s'il avait dû répondre, il l'aurait fait. En clair, et je rejoins assez M. Onesta, je considère que quand il y a une majorité, eh bien ceux qui ne sont pas dans la majorité se plient à la loi de la démocratie et donc se rangent. J'ai senti dans le propos de Pierre Moscovici que finalement le poste était si intéressant. En plus, je trouve ça concernant puisqu'on le lui a promis en le débarquant du gouvernement. Au passage, pardon, mais c'est quand même une idée terrible de qu'on se fait de l'Union européenne.
L'exfiltration par le bas.
Voilà, en clair, vous en avez un qui est pas bon ou qui fait pas bien le job, on le sort. Alors il y a deux solutions, ou on le met rue de Solferino, mais c'était déjà pris. Et puis celui qui était sur rue de Solferino, il fallait le débarquer.
Monsieur Vessière, vous avez et là, en l'occurrence, deux raisons.
Pierre Moscovici, on l'envoie à l'Europe. Je trouve ça terrible pour l'Europe.
Au groupe qui se couche et au réclamé de la politique.
Oui, non, moi ce que je trouve consternant, c'est que un parti à l'évidence républicain donne le sentiment à travers cette dernière prise de parole que l'engagement politique au niveau européen se limiterait à une recherche de poste. Pour ce qui est de la présidence à la Commission, les choses sont claires. Pour nous socialistes, il y a un candidat, c'est Martin Schulz. Et il est hors de question d'envisager de voter pour quelqu'un d'autre, et a fortiori quelqu'un qui ne partage absolument pas nos valeurs. Je préciserai que dans les grandes ambitions du Parti Socialiste à l'occasion de ces élections, et dans le cadre d'une politique européenne, il y a notamment le fait de voir mettre en place un salaire minimum dans tous les pays de l'Union. À l'évidence, ce n'est pas un objectif que partage M. Juncker. Et il y a également la volonté de lutter contre les paradis fiscaux. Que je sache, M. Juncker étant ancien Premier ministre du Luxembourg, j'imagine mal
qu'il
soit intéressé par cette lutte-là. Donc je crois que pour nous, les choses sont claires. Nous avons un candidat et un seul, c'est bien M. Martin Schulz.
Eh bien, j'espère que pour nos auditeurs, les choses sont également claires. Donc, Claude Devezin a régulé le débat de Table ovale sans ellipse, qui aujourd'hui était exceptionnel et consacré à l'élection européenne, et qui réunissait pour la liste Debout la France, Arnaud Roche, pour la France Agir en Europe, c'est-à-dire l'UMP, Aurélien Pradier, pour la liste Front National Bleu Marine, Bruno Leleu, pour l'UDI, le Modem, les Européens, Christian-Emmanuel Gros, pour Nouvelle Donne, Dominique Seta, et pour Choisir notre Europe, c'était PS et PRG, Fabrice Weisser, et Europe Écologie, Gérard Onesta, qui, je rappelle, a été vice-président du Parlement européen, et Lutte Ouvrière, Sandra Torremocha, qui est la tête de liste dans la circonscription sud-ouest pour ces élections européennes pour Lutte Ouvrière. Je vous remercie. Je pense que nous tirerons les conclusions de toutes ces périodes électorales à Table ovale Rodez à la fin juin, et après nous prendrons des vacances bien méritées.
CFM à Villefranche, 90.2.